FM+, le billet d'humeur.
Amis des droits de l'homme, bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un film de science-fiction absolument fabuleux qui est sorti mercredi 4 octobre sur les écrans. Il s'agit de la suite du mythique Blade Runner, puisque c'est le film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Nous sommes aujourd'hui à la veille des temps annoncés dans le Blade Runner de Ridley Scott. Les voitures ne volent pas, les planètes avoisinantes restent vierges de mines exploitées par des androïdes, mais la frontière entre l'humain et l'inhumain s'est faite poreuse. Nous surveillons nos stations de travail, nos réfrigérateurs et nos téléphones avec inquiétude, en attendant le moment qui les verra prendre définitivement le contrôle de nos vies. Réalisé en 81, sorti en 82, situé en 2019, Blade Runner voyait loin, mais pas toujours juste. Comme toutes les grandes œuvres d'anticipation, plutôt que de se risquer à faire le point sur les zones floues du film de Scott, le scénario de Blade Runner 2049, signé Anton Fletcher et Michael Green, fait un saut en avant de 30 ans. Denis Villeneuve, qui venait de gagner ses galons de cinéaste de science-fiction avec Arrival, s'en est emparé et a produit un film cauchemardesque et magnifique, une immersion toxique et exquise dans un univers qui distille les résultats cataclysmiques des choix malheureux de l'humanité. Avec son directeur de la photographie, Roger Deakins, le cinéaste québécois a enveloppé ce paysage apocalyptique d'une brume radioactive dans laquelle se meuvent des personnages à l'identité fluctuante, humains, machines, vivants ou morts. Cet infernal diorama n'a pourtant pas été conçu pour l'édification des générations futures. Blade Runner 2049 est empreint d'une tristesse fataliste qui trouve en Ryan Gosling son interprétation idéale. Son personnage a été baptisé K, alors... En aparté, c'est une référence, je pense, au livre Le procès de Kafka. Son statut de réplicant n'est jamais mis en doute. C'est parce qu'il est lui-même un androïde d'apparence humaine qu'il est le mieux qualifié pour ce poste de Blade Runner, pourchassant les derniers survivants de la génération de machines que traquait déjà Harrison Ford. K exerce sa triste profession dans l'agglomération de Los Angeles. Sa splendeur grouillante de 2019 n'est plus qu'un souvenir. Les désastres écologiques et militaires ont plongé la Californie dans un crépuscule automnal permanent. La première exécution extrajudiciaire que commet K met en branle un très lourd et très lent mécanisme qui redéfinit progressivement la question que posait Philip K. Dick dans le roman qui servit d'inspiration à Ridley Scott. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? En tuant un réplicant, K lui-même, tout à fait conscient de sa condition de machine, a ouvert une brèche dans le mur sans faille que les humains ont érigé pour tenir leur créature robotique à l'écart de l'espèce qui les a conçus. La vie quotidienne de K est d'abord une mise en scène comme un abîme de médiocrité. Il est soumis aux caprices de sa chef de bureau sadique, incarnée par Robin Wright, et se trouve des consolations à sa solitude dans le commerce d'une ravissante créature numérique. Incarné par Ana de Armas, moins qu'une machine sophistiquée, K est un esclave, capable de faire tout ce que les humains font et souvent mieux, sans jouir d'aucun de leurs droits. Alors que le parcours de Descartes dans Blade Runner l'amenait à prendre conscience de sa vraie nature, celui de K relève plus de l'éveil politique. Dans son sillage, on parcourt la cité dont on met à jour les rouages cachés et dont il explore les failles béantes, plus encore que l'édifice complexe du scénario. C'est cette mise en scène d'une société humaine faillie qui fait le prix et la profondeur de Blade Runner 2049. Pour un terrien de la fin du XXe siècle, cette planète-là est inhabitable. Et pourtant, l'espèce se maintient, les enfants sont retournés au travail, l'État ne garantit plus la paix qu'à une minorité, et ces quelques privilégiés utilisent la souffrance des autres pour mieux asseoir leur position. À cet égard, c'est moins le personnage de milliardaire pervers qu'incarne Jared Leto qui suscitera le haut-le-cœur que celui de l'assistante androïde, créature baroque et superbe, qui répond à trois décennies de distance à Pris, la réplicante incarnée par Daryl Hannah dans le film de Scott. Des îlots de population, généralement misérables, sont entourés de déserts jonchés de ruines qui s'étendent vers l'est jusqu'à Las Vegas, figuration de l'enfer sur Terre. C'est là que K rencontrera Descartes, ce qui se trame entre eux laisse un goût d'inachevé, les mêmes regrets que le reste de ce film, qui est comme un requiem pour une humanité aveuglée par son orgueil. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça met en exergue finalement les droits humains, la limite de ces droits, qu'est-ce qui définit l'humain, qu'est-ce qui nous définit, pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche chez nous comme humanité. Et ces frontières-là, la science-fiction les explore régulièrement, soit dans la littérature, et pose souvent les bonnes questions, parfois 50 ans avant que les problèmes se posent. Et souvent, dans les comités d'éthique, on devrait se pencher sur la littérature de science-fiction pour comprendre les problèmes qu'on risque de rencontrer à l'émergence de nouvelles technologies. Voilà, donc je vous conseille tous ce film qui fait bien réfléchir et aussi pour le plaisir des yeux, parce que c'est très beau. À très bientôt. Au revoir.